Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour le début d'un récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs qui nous emmènera aussi au cours de la semaine prochaine. Je vous propose aussi cette semaine d'accompagner ces lectures avec quelques chansons de Julos Bocarne, ce troubadour poète qui vient de nous quitter. Sylvain Tesson, sur les chemins noirs. Avant-propos. L'année avait été rude. Longtemps, les dieux avaient favorisé la famille, nous avaient baignés de leur douceur. Peut-être se penche-t-il sur certains d'entre nous comme les fées des contes. Puis leur sourire se crispe en grimace. Nous ne savions rien de ces choses, mais nous goûtions cette amabilité du sort avec une désinvolture énergique. Elle nous affranchissait de la moindre gratitude, mais nous contraignait à une épuisante légèreté. La vie ressemblait à un tableau de Bonnard. Il y avait du soleil sur les vestes blanches, des compotiers sur les nappes, des fenêtres ouvertes sur un verger où passaient des enfants. Dehors, les pommiers bruissaient. Le décor idéal pour un bon coup de massue. Cela n'avait pas tardé. Mes sœurs, mes neveux, tout le monde avait été atteint de l'un de ces maux qui s'infiltrent par les remparts dans les fables médiévales. Une ombre rampe dans les ruelles, atteint le cœur de la ville, gagne le donjon. La peste avançait. Ma mère était morte comme elle avait vécu, faisant faux bond. Et moi, pris de boisson, je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombé sur un tas d'os. Je regretterai longtemps cette chute parce que je disposais jusqu'alors d'une machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens. Tous les voyants d'alerte sont au rouge, mais la machine taille sa route. Et le moindre Cassandre à gueule d'idiot qui agite les bras en travers de la piste pour annoncer la catastrophe est écrasé menu. La grande santé, elle menait au désastre. J'avais pris 50 ans en 8 mètres. On m'avait ramassé. J'étais revenu à la vie. Mort, je n'aurais même pas eu la grâce de voir ma mère au ciel. 100 milliards d'êtres humains sont nés sur cette terre depuis que les Homo sapiens sont devenus ce que nous sommes. Croit-on vraiment qu'on retrouve un proche dans la cohue d'une termitière éternelle encombrée d'angelots ? À l'hôpital, tout m'avait souri. Le système de santé français a ceci de merveilleux qu'il ne vous place jamais devant vos responsabilités. Dans une société antique régie par un principe d'éthique, on ne devrait pas s'occuper d'un soulographe avec les mêmes égards que ceux dispensés aux vrais nécessiteux. On ne m'avait rien reproché. On m'avait sauvé. La médecine de fine pointe, la sollicitude des infirmières, l'amour de mes proches, la lecture de Villon, le punk, tout cela m'avait soigné. Il y avait surtout eu la sainteté d'un être venu chaque jour à mon chevet, comme si les hommes de mon espèce méritaient des fidélités de bêtes. Un arbre par la fenêtre m'avait insufflé sa joie vibrante. 4 mois plus tard, j'étais debout, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Il fallait à présent me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit, je m'étais dit, à voix presque haute, « Si je m'en sors, je traverse la France à pied. » Je m'étais vu sur les chemins de pierre. J'avais rêvé au bivouac. Je m'étais imaginé fendre les herbes d'un pas de cheminot. Le rêve s'évanouissait toujours quand les portes s'ouvraient. C'était l'heure de la compote. Un médecin m'avait dit, « L'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. » Je préférais demander au chemin ce que les tapis roulants étaient censés me rendre, des forces. L'été prochain était venu. Il était temps de régler mes comptes avec la chance. En marchant, en rêvassant, j'allais convoquer le souvenir de ma mère. Son fantôme apparaîtrait si je martelais les routes buissonnières pendant des mois. Pas n'importe quelle route. Je voulais m'en aller par les chemins cachés, bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il y avait encore une géographie de traverse, pour peu qu'on lise les cartes, que l'on accepte le détour et force les passages. Loin des routes, il existait une France ombreuse protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie. Les médecins, dans leur vocabulaire d'agent du politburo, recommandaient de se rééduquer. Se rééduquer. Cela commençait par ficher le camp. Des motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Me seriner par exemple que j'avais passé 20 ans à courir le monde entre Ulan-Bator et Valparaiso, et qu'il était absurde de connaître Samarcande alors qu'il y avait l'Indre-et-Loire. Mais la vraie raison de cette fuite à travers les champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé au fond de mon sac. Mauvais début. Dans le train. Pourquoi le TGV menait-il cette allure? À quoi servait-il de voyager si vite? L'absurdité de laisser filer à 300 à l'heure le paysage qu'il faudrait ensuite remonter à pied pendant des mois. Pendant que la vitesse chassait le paysage, je pensais aux gens que j'aimais, et j'y pensais bien mieux que je ne savais leur exprimer mon affection. En réalité, je préférais penser à eux que les côtoyer. Ses proches voulaient toujours que l'on se voie, comme s'il s'agissait d'un impératif alors que la pensée offrait une si belle proximité. 24 août à la frontière italienne. C'était mon premier jour de marche depuis la gare de Tende où m'avait mené le train de Nice. Je montais à pas faibles vers le col. Des graminées blondes balayaient l'air du soir. Ces révérences étaient une première vision d'amitié, de beauté pure. Après des mois si tristes, même les moucherons au soleil offraient d'heureux présages. Leurs nuages dans l'or tiède adressaient un signe à la solitude, on aurait cru une écriture. « Peut-être, nous disait-il, cessez votre guerre intégrale contre la nature. » Des cèdres se tenaient sur le bord du chemin, sérieux. Leurs racines enserraient les talus. L'arbre a souvent l'air sûr de son bon droit. Un berger descendait d'une foulée plus hardie que la mienne. Il apparut, noueux, dans le virage, avec l'allure d'un héros de Giono, un homme d'ici. moi j'avais toujours l'air d'un mec d'ailleurs. « Salut, tu vas à la ville ? » dis-je. « Non, » dit-il. « Il y a le troupeau là-haut ? » dis-je. « Non. » « Tu descends te reposer ? » « Non. » J'allais devoir me débarrasser de cette habitude de citadin de vouloir lier conversation. Le col de Tende marquait un encellement de la ligne de crête du Mercantour. Il séparait l'Italie de la France. J'avais décidé de commencer là, dans le coin sud-est du pays, et de rejoindre le nord du Cotentin. Les Russes, par tradition, avant de partir en voyage, s'asseyent quelques secondes sur une chaise, une malle, sur la première pierre venue. Ils font le vide en eux, pensent à ceux qu'ils quittent, s'inquiètent de savoir s'ils ont fermé le gaz, caché le cadavre, que sais-je encore. Je m'assis donc, manière Ruskov, le dos contre un oratoire de bois où une vierge méditait devant le paysage d'Italie. Soudain, je me levai et partis. Sur les talus, mes yeux abîmés prirent les vaches pour des pierres rondes roulées dessus les pentes. Les crêtes hérissées de pins noirs faisaient penser aux collines que j'avais vues à 20 ans, crénelées les horizons du Yunnan chinois et bleu. Mais je chassai ces pensées dans l'air du couchant. Ce fatras d'analogie m'encombrait. N'avais-je pas juré de me tenir pendant quelques mois sous le commandement des poèmes païens de Pessoa ? De la plante, je dis, c'est une plante. De moi, je dis, c'est moi. Et je ne dis rien de plus. Qu'y a-t-il à dire de plus ? Oh, je le soupçonnais, Pessoa, l'intranquille, de n'avoir jamais été fidèle à son projet. Comment croire qu'il ait réussi à se contenter du monde ? On écrit ce genre de manifeste et on passe sa vie à trahir cette théorie. Pendant ces semaines de marche, j'allais tenter de déposer sur les choses le cristal du regard sans la gaze de l'analyse, ni le filtre des souvenirs. Jusqu'ici, j'avais appris à faire de la nature et des êtres une page où noter les impressions. Il m'était urgent à présent d'apprendre à jouir du soleil sans convoquer de style, du vent sans réciter Hölderlin et du vin frais sans voir Falstaff clapoter au fond du verre. Bref, à vivre comme un de ces chiens. Ils goûtent la paix, langue pendante, donnant l'impression qu'ils vont avaler le ciel, la forêt ou la mer, et même le soir qui tombe. Bien entendu, l'entreprise était vouée à l'échec. Un Européen ne se refait pas.
Les vrais amis sont comme les arbres. Ils ont hâte de te voir, mais reste imperturbable si tu ne passes pas dire bonsoir. Même après une longue absence, tu peux renouer avec eux. Il n'y a pas d'intermittence, te revoir les rend heureux. Les vrais amis sont comme les arbres. Quand t'es très loin ou bien tout près, sans jalousie et sans alarme, ils croissent, c'est leur métier. Les vrais amis sont comme les arbres, ils tendent leurs bras, ne plient pas, ils grimpent vers la lumière, c'est ce qui les met en joie. Les vrais amis sont comme les arbres. L'hiver est dans leur peau, qu'il fasse pluie, glace ou bourrasque, ils parfument et tiennent chaud. Les vrais amis, quand ils trépassent, n'en finissent pas de fleurir. Dans nos mémoires opiniâtres, même couper les arbres pris. Thank you. Ils ont hâte de te voir, mais reste imperturbable si tu ne passes pas dire bonsoir. Si tu ne passes pas dire bonsoir.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Sur les chemins noirs. À 2000 mètres d'altitude, j'avisais un replat d'herbe épaisse près d'un bunker de béton. J'allumais un feu. Le bois était humide et je soufflais tellement sur les braises que ma tête enfoncée tournait. La chaleur délogea des araignées grasses. Elles ne me faisaient plus peur, j'en avais vu beaucoup s'échapper de mes orbites. La toile de bivouac me protégea à peine des nuages humides crachés par l'obscurité. J'étais intimidé. C'était la première nuit que je passais à l'air libre après ma chute. Le sol m'accueillait à nouveau, moins brutalement cette fois. Je revenais dans mon jardin aimé, une forêt sous les étoiles. L'air était frais, le sol inégal, le terrain en pente, cela s'annonçait bien. Les nuits dehors, pour peu qu'on les chérisse et les espère, lorsqu'elles couronnent les journées de mouvement, sont à accrocher au tableau des conquêtes. Elles délivrent du couvercle, dilatent les rêves. N'entendait-on pas s'élever la clameur dans les villes d'Europe de l'air, de l'air ? J'avais rêvé de m'allonger sous les sapins quand je gisais un an plus tôt à l'hôpital. Voilà que revenait le temps des bivouacs. Le 25 août, dans la vallée de la Roya. La nuit avait été étrange. Cela avait commencé vers 11h du soir. Un premier coup de feu avait retenti à 200 ou 300 mètres, suivi d'un second, puis les détonations n'avaient pas cessé, espacées d'une minute. Parfois, l'intervalle se réduisait à 30 secondes. Qui tirait dans la nuit ? Un staré cinglé qui en voulait aux ténèbres. Je fis les premiers pas en pensant que si je réussissais cette traversée de France, ce serait une rémission. Si je ne parvenais pas, je prendrais mon échec pour une rechute. Elle était loin, la perspective de guérison, aussi loin que le Cotentin. Je plaçais mon salut dans le mouvement. Le matin, j'aperçus une bergerie dans un creux. Une femme lisse, rose, avec de grosses joues de flamande et des biceps nus, s'affairait sur le seuil. Elle sortait d'un brouguel et rentrait de la traite. « J'ai entendu des coups de feu cette nuit, » dis-je. « Bon, c'est une machine à gaz pour éloigner le loup. Pan, pan, » fit-elle. « Ah ? Qu'est-ce que tu veux, » dit-elle, « ce qu'il y a ? Du fromage de vache, sec, 300 grammes. » Les loups ont peur ? Oh, qui sait ? 3 euros. Les choses avaient tout de même mal tourné. Les hommes s'étaient multipliés, ils avaient investi le monde, cimenté la terre, occupé les vallées, peuplé les plateaux, tué les dieux, massacré les bêtes sauvages. Ils avaient lâché sur le territoire leurs enfants par génération entière et leurs troupeaux d'herbivores génétiquement trafiqués. Un jour, il y a 30 ans, cheminant par les abruzzes, le loup était revenu dans le Mercantour. Certains esprits s'étaient mis en tête de le protéger. Les bergers en avaient été furieux car la présence du fauve les contraignait à renforcer la veille. Les amis du loup dorment au chaud dans les villes. C'était plein les éleveurs. Il fallait à présent installer dans les alpages des machines imitant le coup de fusil pour protéger les herbivores des fauves rentrés chez eux. Je serais un loup, je dirais, le progrès, cette farce. Le 26 août, sortir du Mercantour. Le soir tombait, et moi je me traînais. Pour l'instant, cela n'allait pas fort. 3 journées dans les pierres, m'avait déjà haché le dos. quel intérêt à hisser ce corps en loques jusqu'au nord d'un pays en ruine, pensais-je, en suivant des yeux la caracole de deux chamois, une mère et son fils, dans un chaos de blocs. Étions-nous nombreux à jalouser les bêtes ? Le petit m'avait déboulé dans les jambes derrière un rocher. Il avait hésité pendant une ou deux secondes. Dans les îles vierges du XVIIIe siècle, les bêtes sauvages venaient manger dans la main des premiers explorateurs, avant de recevoir un coup de mousquet en guise de célébration de la rencontre avec l'homme. Petit Chamois avait tout de même obéi à une injonction salutaire et opéré une volte-face, comprenant que je ne constituais pas une fréquentation recommandable. J'avais croisé une chute d'eau cascadant dans les mousses, longé les eaux d'un lac vert et remonté les pentes. J'étais passé au nord du mont Bégaud, déserté par les esprits préhistoriques, et la lecture de Knulp sur les talus avait achevé de me démoraliser. Hermann Hesse promenait son vagabond dans l'aimable campagne allemande adoucie par l'automne. Certes, le bon Knulp finissait par mourir seul, mais au moins, avant de payer au prix fort son esthétique de l'irresponsabilité, avait-il montré aux villageois la noblesse d'une vie de flânerie. Si je voulais marcher rêveusement, escorté de pensées bienveillantes, il me fallait une géographie d'allées forestières avec de temps en temps une auberge où des chopes de bière mousseraient sur des tables de bois. Au pas de Colombe, la petite église de la Madone de Fenestre apparut en son vallon. En France, on trouve des lieux de culte marial dans les grottes et les sources. La Vierge Marie s'est accaparée toutes les bizarreries du relief. Je connaissais même une Notre-Dame des Falaises sur les flancs du Cap Canaille. C'était la récupération du vieux paganisme par la foi catholique, une manière de ne pas rompre avec l'esprit des lieux. J'allais m'abreuver un peu de pénombre sous les voûtes de l'église. Sur les murs étaient accrochés les ex-voto des alpinistes sauvés d'une chute. C'était la corde qui les avait retenus, mais il leur était agréable de croire au secours du ciel. À gauche de l'entrée s'élevait une stèle nouvellement érigé, à la mémoire d'Hervé Gourdel, ce guide de montagne, enfant de Vésubie que les musulmans fanatiques avaient égorgé en Kabylie l'année passée. De mon lit d'hôpital, j'avais été hanté par son martyre. J'avais imaginé l'alpiniste entravé, la tête couverte, promis aux directives coraniques. J'avais éprouvé une fraternité avec Gourdel. Ce soir, son souvenir surgissait. Sur une colonne de l'église, une plaque mentionnait la mort des Templiers décapités. Était-ce l'œuvre des Sarrasins ? Au Xe siècle, occupés à ravager la Provence, ils avaient détruit un sanctuaire en ce même lieu. Et ce soir-là, en m'enroulant dans ma toile, je saluais Gourdel, avant que les pensées ne se muassent en rêve. Une vache, préoccupée par d'autres choses, meuglait ses propres requiems dans la nuit de l'alpage. De ruines et de ronces. Le 27 août, la Vésubie et la Tinée. Les vallées s'étiraient, les villages passaient. Les cailloux roulaient davantage sur les chemins calcaires de la Haute-Provence. Un soir, à Saint-Dalmas, sentant grincer les armatures plantées dans mon dos, j'avisai un gîte. Oh, comme j'aurais aimé vivre au temps où ce petit dialogue eût été possible. Avez-vous un toit et de la paille ? On te donnera le pain et le vin si tu aides aux fenaisons. Mais il fallait vraiment s'être cassé la figure pour rêver à pareille conversation. On n'était plus au temps de Knoup. Mon pauvre petit, me dis-je, quand la dame aux longs cheveux bruns me déclara sur le seuil. On vous aurait bien fait le tarif gîte d'étape, mais on n'a pas l'accréditation administrative. J'allais devoir être ingénieux pour échapper pendant des mois à la soumission du pays aux lois de l'administration. Trouverais-je sur le territoire des zones franches épargnées par la politique du territoire ? Un des lointains premiers ministres de la Ve République avait commandé en son temps un rapport sur l'aménagement des campagnes françaises. Le texte avait été publié sous le mandat d'un autre ministre et sous le titre « Hyper-ruralité ». Une batterie d'experts, c'est-à-dire des spécialistes de l'invérifiable, y jugeait qu'une trentaine de départements français appartenaient à l'hyper-ruralité. Pour eux, la ruralité n'était pas une grâce, mais une malédiction. Le rapport déplorait l'arriération de ces territoires qui échappaient au numérique, qui n'étaient pas assez desservis par les réseaux routiers, pas assez urbanisés ou qui se trouvaient privés de grands commerces et d'accès aux administrations. Ce que nous autres pauvres cloches romantiques tenions pour une clé du paradis sur terre, l'ensauvagement, la préservation, l'isolement, étaient considérés dans ces pages comme des catégories du sous-développement. Le rapport se faisait rassurant, les auteurs étaient de confiants prophètes. « Courage, citoyens campagnards, nous arrivons !» Bientôt, grâce à l'État, la modernité ruissellerait dans les jachères. Le Wi-Fi ramènerait les bouseux à la norme. Au lieu d'écrire par les champs et par les grèves, le futur Flaubert qui traverserait ces étendues pourrait se fendre d'un par les ZUP et par les ZAC. Les bénéficiaires de ces aménagements feraient de bons soldats, des hommes remplaçables, prémunis contre ce que le rapport appelait les votes radicaux, car c'était l'arrière-pensée. Assurer une conformité psychique de ce peuple impossible. Voilà donc cette première lecture du récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.